Décodeur passe l'été avec Marie-Claire Maison. Si vous avez des envies d'ailleurs, il suffit de plonger dans ces pages estivales qui font la part belle à la déco de vacances, celle qu'on attend patiemment. Pour ça, le magazine s'est enrichi d'un guide d'inspiration, solaire, fraîche, tendance et facile à s'approprier. La palette de bleu, le style gypsy, le retour aux essentiels, je ne vous en dis pas plus, mais le décryptage de ces jolies ambiances vous permettront de chiller avec style, faites-nous confiance. Bonne lecture! Bienvenue sur Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro un architecte ou un designer, une marque reconnue ou émergente, un entrepreneur ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco. Son parcours, son métier, son quotidien, son univers, ses goûts, on saura tout. Enfin, j'espère. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là pour ce rendez-vous déco. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, bienvenue. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Aujourd'hui, je suis chez Zoé de Lascaz, non pas dans sa jolie maison de campagne qu'on a pu voir dans Sans décoder sur le compte de Décodeur, mais chez elle, à Paris. Son style unique et délicieusement rétro se prolonge ici en fil rouge. Beaucoup de blanc, des objets chinés, des touches de couleurs et plein d'idées déco pour optimiser ou égayer chaque recoin. Il faut dire que Zoé a du goût et elle en a fait son métier. Enfin, plusieurs métiers puisqu'elle touche un peu à tout. Graphiste, designer, illustratrice, décoratrice, on ne sait plus comment la présenter. Mais c'est pas très grave puisque nous sommes justement là pour en discuter. Bonjour Zoé.
Bonjour Hortense.
Alors je sais pas comment te présenter, t'as tellement de casquettes. Comment tu te définirais toi? Quel métier?
En fait je vais pas t'aider parce que moi-même je n'y arrive jamais. Donc je pense que selon les circonstances je change de métier. De temps en temps, je me dis que je suis juste que je dis styliste ou designer et puis ça suffit. Mais en fait, c'est tellement vaste, tous ces métiers. Et les gens aiment bien la précision. Donc, je dis décoratrice de temps en temps, graphiste de, voilà, je change. J'ai plusieurs
tes
casquettes.
Tes enfants, par exemple, quand ils doivent dire métier de maman.
Je pense très sincère. Alors, ma fille, je l'ai entendu dire que j'étais décoratrice, que je dessinais des maisons. Non, que je faisais des maisons. Ça, je l'ai souvent entendu dire. Et elle a aussi dit, maman, son métier, c'est de faire des dessins. Donc, c'est pas mal. Donc, je pense que c'est ça. Je pense que je suis décoratrice et je fais des dessins.
Alors, on va dérouler justement chacune des activités que tu fais. Mais comment tu as commencé ton parcours au tout début, par exemple, à 20 ans, quelles études tu as fait?
Alors, moi, j'ai fait une prépa d'art à l'Académie Charpentier. Et donc, en fait, la première année, bah, tu testes un peu tout. Et puis après, tu choisis. J'ai voulu être styliste de mode pendant très longtemps quand j'étais petite. Finalement, je me suis dit que c'était un peu trop technique. Et que ma maman était styliste. Donc je me suis dit que non, ça allait peut-être me lasser, que j'avais pas envie du tout de coudre, voilà. Et puis après, je me suis dit, ah mais tiens, je pourrais être architecte d'intérieur. Et puis quand j'ai vu en prépa d'art les cours d'architecture d'intérieur, je me suis dit non, c'est pas pour moi non plus. C'était beaucoup trop technique, c'était nul dans ce cours-là. Et puis en fait, je me suis éclatée au cours de création visuelle, quelque chose comme ça, où en fait, c'était vraiment le cours le plus libre que j'avais en prépa. On me donnait un sujet et on disait voilà, fais ce que tu veux, ta carte blanche. Et je crois que j'ai adoré ce principe-là. Et donc je me suis rendu compte que j'étais peut-être plus visuelle, que j'avais une mémoire visuelle, que j'aimais tout ce qui était dans les couleurs et dans les images. Et donc je me suis dit bon, j'ai oublié le truc technique, je vais faire à ma sauce. Et donc la résultat communication visuelle, ça me correspondait beaucoup mieux. Donc j'ai laissé tomber l'architecture. Et je me suis dit au pire, je reviendrai à l'architecture d'intérieur, à la décoration. Il n'y a pas de raison, c'est pas parce que je ne sais pas faire des dessins techniques que je ne suis pas douée là-dedans. Donc j'ai choisi communication visuelle et je regrette absolument pas parce que résultat, je me suis vraiment focus aujourd'hui. J'aime autant la photo que l'illustration et que la décoration. Donc, et en fait, c'est, communication visuelle, ça veut dire quoi? C'est une école pour devenir directeur artistique. Donc c'est exactement ce que je sais. Donc c'est ça que je dois répondre aux gens d'ailleurs quand on me demande quel est mon métier. Je vais dire, bah, je suis directrice artistique, je touche à tout ce qui est artistique. Voilà.
Alors comment t'as commencé en créant des objets déco, c'est ça, de ta propre marque? Mais
alors
tout
en fait, pour la petite histoire, parce que je suis pas, voilà, c'est quand même pas rien, mes parents avaient une boutique de décoration qui s'appelait Territoire, qui était une boutique où j'ai passé ma vie en fait là-bas. Il y avait une boutique d'adultes très justement axée sur la nature, donc c'est pour ça que j'adore la nature, et une autre qui était pour les enfants, pour les jouets. Donc moi je passais mes dimanches à jouer avec des jouets Villac en bois, et donc je passais aussi ma vie dans les salons avec mes parents pour acheter pour la boutique. Donc j'adorais, je travaillais là-bas l'été, enfin c'était, puis beaucoup de journalistes qui connaissaient, c'était un peu une institution quand même à Paris dans le milieu de la décoration. Et puis un jour, mes parents m'ont dit, écoute, on commence à en avoir un peu marre. Je sais pas si ça va durer encore longtemps. Mais bon, c'est une super vitrine pour Paris, pour les journalistes. Donc si t'as envie de te lancer et de créer ta propre marque, peut-être que c'est le moment. Et j'avoue, quand je faisais les salons avec les parents, quand j'achetais d'ailleurs, j'avais carte blanche pour acheter pour la boutique, je m'étais dit, en fait, je crois que j'ai envie d'être derrière. C'est-à-dire que j'avais pas envie d'acheter, j'avais envie de créer. J'avais toujours dit à mes parents, plus tard, vous viendrez m'acheter dans mon stand. Et en fait, c'était ça, je voulais faire ça. Donc je vais créer, dessiner les objets. Et puis, donc, j'ai fait ça. Et c'est comme ça que je me suis lancée. J'ai fait quelques produits que j'ai décidé avec mes parents. Ça s'appelait les boîtes, la famille mise en boîte. J'ai vraiment créé avec mon papa et ma maman. Et ça a été un grand succès. Et mes parents m'ont dit, écoute, on a testé les boîtes chez Territoire. Ça marche super bien. T'as eu plein de presse. Je crois que c'est le moment. Il faut te lancer, quoi. Et donc, j'ai envoyé un dossier pour Maison Objets. J'avais prévu de pas être prise parce que pour moi, c'était un peu long d'être prise à Maison Objets. Et en fait, j'ai été prise tout de suite, ce qui m'a un petit peu déboussolée. Donc, résultat, j'avais 6 mois pour faire une collection. C'était quand même assez sport. Et puis, je me suis lancée assez vite avec mon mari Benjamin, en fait, qui était à mes côtés et qui m'a beaucoup aidée. Et on s'est lancés tous les deux. Et en fait, Maison Objets a super bien marché. Et c'est comme ça que j'ai commencé.
Oui, tu parles de ton mari. C'est important le soutien des proches quand on se lance?
Je pense que c'est primordial parce que si on se sent seul et pas du tout soutenu, c'est dur quand même. Hein. Je veux dire, être entrepreneur, c'est quand même... Moi, j'avoue qu'en fait, j'ai été tout le temps soutenu. Je pense très, très fort à mes parents qui m'ont beaucoup soutenu, qui m'ont toujours dit, de toute façon, dans la vie, on est des entrepreneurs, dans la famille, on est des entrepreneurs. Et c'est vrai, je me sens très entrepreneuse et je me rends compte que... Moi, je suis très dyslexique, donc j'ai eu un parcours scolaire vraiment compliqué. J'étais pas très heureuse à l'école, je peux même dire que j'étais malheureuse, mais par contre j'étais heureuse à côté. Donc maman me disait toujours, écoute, toi tu vas avoir un parcours plus compliqué que les autres, mais c'est ça qui a fait ma différence et c'est pour ça que j'ai eu envie de me battre et de faire les choses différemment, quoi.
Voilà. Donc quand tu as lancé ta petite collection de boîtes, c'est mm-hmm. ça. Après tu as eu des articles, des commandes, c'est ça vraiment qui t'a
lancé. En fait j'ai eu beaucoup de presse de à Noël et tout ça, m'a beaucoup lancé. Et puis petit à petit j'ai des boutiques qui m'ont appelé en disant écoutez en fait j'ai vu vos produits dans la presse, j'aimerais bien les distribuer. Donc moi j'avais un peu de stock parce que c'est mes parents qui m'avaient payé d'ailleurs ma première production. Donc là dans le genre j'étais quand même bien soutenue. Et puis petit à petit j'ai commencé à avoir des commandes et puis j'ai eu une grosse commande de la grande épicerie. Ça a été ma première grosse commande qui m'a commandé des pochettes surprises. J'ai fait des pochettes surprises en carton. Et voilà, et là, ça a commencé.
Alors moi, pour être très honnête, je t'ai connue à l'époque des cahiers chez Monoprix. Ah oui. J'étais vendue chez Monoprix. Donc ça aussi, c'était une étape importante.
Ça, c'était, on va dire, un peu l'étape d'après. C'est-à-dire que j'ai fait pendant 8 ans Maison et Objets, où il y a plein de boutiques avec qui j'ai travaillé pendant des années. Et j'avoue que j'ai été très heureuse. Mais en fait, avoir une marque de décoration, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de trésorerie. Et à la fin, je faisais plus du commercial que de la création. Donc j'étais un peu malheureuse. Je courais après les clients, tout ça, en fait, c'était compliqué. Et puis en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré Rislaine Nuss, qui travaille chez Claire Fontaine, qui est la PDG de Claire Fontaine, une présidente de Claire Fontaine, et elle m'a dit « j'adore ton univers, j'aimerais beaucoup te mettre ça sur des cahiers Claire Fontaine ». Et pour moi, Claire Fontaine, c'était un peu une institution. Et en fait, voilà, et ça a commencé, c'était maintenant il y a 8-10 ans, je pense, donc quand même, ça fait longtemps. Et en fait, ça a super bien marché. Et je me suis rendu compte qu'en fait, moi, j'avais juste à dessiner. Et après, je m'occupais de rien. Je faisais ni la production, ni la distribution. Et j'ai adoré. Et en fait, je gagnais tout autant d'argent. Et je faisais ce que j'aimais. Donc là, il y a eu effectivement cette collection avec Monoprix, avec qui, d'ailleurs, presque tous les ans, en ce moment, il y a une collection avec Monoprix. Mais il y a eu une fameuse collection avec des animaux qui a été un succès assez incroyable, où tout le monde, j'avais une copine prof qui me disait à la rentrée, tout le monde avait des agendas avec des petits hiboux. Ça, c'était génial. C'était une super. Et donc, ouais. Donc, effectivement, il y a beaucoup de gens qui m'ont connu comme ça.
Et après, depuis récemment, tu as une casquette aussi de décoratrice. Toi, tu le faisais pour toi. On va largement en reparler après. Mais maintenant, tu travailles pour des particuliers. Aujourd'hui, on peut faire appel à toi pour décorer un lieu.
Tout à fait. Aujourd'hui, voilà, en ce moment, je dois avoir 5 chantiers et ça me demande pas mal de travail, donc maintenant on est un peu une petite équipe, et j'avoue que j'aime bien faire un peu de tout, je peux faire un chantier, mais à côté de ça, voilà, je viens de sortir 2 livres, j'ai un peu 15 projets en même temps, ouais. C'est ça que j'aime d'ailleurs.
Et chez tes clients, tu fais du zoo et de la scase, ils viennent te chercher pour ton univers, ou tu te plies un peu
Très honnêtement, j'ai le luxe de pouvoir dire non. Et en fait, si on vient me chercher pour un style qui n'est pas le mien, non, je dis non. Clairement, c'est pas moi. Je vais faire de mon style. Bien sûr que je m'adapte au client, bien sûr que je fais attention à ce qu'il me dit. Je vais pas refaire un chez moi, c'est pas le but. En revanche, si on me demande de faire des années 70, faut oublier parce que c'est pas du tout mon style.
Ouais. Comment tu penses, toi, un intérieur? Comment tu imagines un...
Alors, très honnêtement, souvent, je me dis ça. C'est drôle parce que là, je suis en train de lancer un nouveau projet à la campagne. Donc, je viens d'acheter une nouvelle maison. Je vais faire des ateliers. Et je me suis fait cette réflexion-là il y a deux jours parce que je suis en train de faire les planches tendances. Et je veux vraiment travailler chaque pièce et chaque endroit. Et c'est drôle. Et je me suis fait cette réflexion. Et je me suis dit, bon, comment j'avais fait pour Paris? Comment j'avais fait pour ma maison de campagne? C'était quoi? Pourquoi j'ai réussi des endroits? Parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'endroits où je suis contente. Je me dis, tiens, c'est bien, j'avais bien bossé. Et en fait, je crois, très honnêtement, qu'en fait, je me dis, il faut que ça me fasse rêver. Si un endroit me fait rêver et je pars en... c'est que c'est bon, en fait. J'ai besoin... Et si ça ne me fait pas rêver, c'est que je n'ai pas réussi. Donc, par exemple, là, mes ateliers, je suis en train de faire les plans. Voilà. Et là, je ne suis pas encore dans la phase où ça me fait rêver. J'ai des endroits qui me font rêver, mais d'autres pas. Donc, ça veut dire que je n'ai pas encore assez creusé. Et le moment où je trouve l'idée et où je dis, c'est ça. Et ça, ça va être génial. Et ça va me vendre du rêve. C'est que c'est bon, j'ai réussi.
Parce que donc, tu as un appart, cet appart dans lequel on est, tu as une maison de campagne, donc tu as fait le choix d'un petit appart et d'une grande maison de campagne c'est pour ça. Passer les week-ends.
C'est exactement, c'est exactement ce choix que j'ai fait. Bah, je pense qu'à Paris, vu les prix au mètre carré, c'est sûr que... Voilà. Et moi, on parle de rêve, bah, c'est exactement ça. Moi, il fallait que même mon appartement à Paris, moi, un appartement de 400 mètres carrés dans le centre de Paris, ça peut ne pas me faire rêver, en fait. En revanche, une maison de 400 mètres carrés au bord d'un ruisseau, je dis n'importe quoi, dans un cadre idyllique, oui, ça me fait rêver. Donc, à partir du moment où j'avais fait ce constat-là, qu'en fait, un appartement à Paris, c'est bien, je vais pas dire le contraire, hein, c'est pas le rêve que j'avais, je me suis dit, bon, s'il est plus petit, mais qui me donne plus de rêves, je préfère. Donc, c'était le choix que j'ai fait et j'ai trouvé cet appartement avec cette terrasse. Et ce qui me faisait rêver dans cet appartement, c'était la terrasse. Donc, il fallait qu'il y ait un coup de cœur. Donc là, je suis ravie parce que je suis dans le centre et en fait, le Paris historique est quand même magique et vend pas mal de rêves. Mais je dis ça, j'ai été dans plein d'autres quartiers, donc je connais Paris très bien et je peux aller n'importe où dans le 20e, ça me dérange pas. Mais là, j'avoue que c'est un peu carte postale, donc c'est...
Voilà. C'est carrément carte postale. Comment tu définirais ton style, justement, avec tes mots à toi? Qu'est-ce que t'aimes ?
Je pense que mon style, il est très nature et qu'en fait, j'ai un style qui mélange la nature, la brocante avec le moderne, le contemporain. Voilà, je dirais que c'est ça. C'est pas évident.
Comment on réussit ça, justement, mélanger ?
Bah, pour moi, c'est une histoire d'équilibre, en fait. C'est vraiment un équilibre entre chaque endroit, chaque pièce. Et si on met trop de brocante, bah, l'équilibre n'est pas bon et là, on tombe dans un côté un peu trop broc et c'est pas élégant et il faut juste trouver le juste équilibre, en fait, c'est ça. Et c'est pas toujours évident, hein. Je dis ça, je suis la première à de temps en temps dire ah non, je crois que cet objet là il est de trop, on va l'enlever, et là c'est plus doux, voilà.
Et le fait que ce soit le même style, ton appartement c'est un peu le prolongement de ta maison de campagne ou inversement, t'as pas peur de te lasser?
Alors, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils verront que mon loft était assez différent et était beaucoup plus coloré. J'avais un papier peint en lacquerie qui a été vu partout après. J'avais fait des chaises qui a été un grand succès aussi. J'avais fait des chaises en papier peint vintage à fleurs. Donc j'avais ma collection de cuisine, de dinettes anciennes que j'adore. D'ailleurs, j'ai encore beaucoup de gens qui me réclament que je ressorte de ma grange ma collection de dinettes. Mais en fait, les modes changent. Et moi, je me suis lassée. Donc oui, bien sûr qu'on se lasse. Et si je dis pas, et ça se trouve, dans 10 ans, je serai dans un truc qui n'a rien à voir. En tout cas, ce qui est sûr... c'est qu'il y a un truc qui va pas changer, qui n'a pas changé même depuis mon loft. C'est la nature, je pense. Ça, il y a toujours un peu de nature chez moi.
Et il y a quelque chose un peu de, je cherche le mot depuis hier, un peu d'enfantin.
Ça, ah, c'est sûr.
Ça te vexe pas qu'on utilise ce mot-là?
Non, parce que pour moi, le retour en enfance, c'est justement le rêve. C'est-à-dire que je pense très sincèrement que moi, mes plus beaux souvenirs et qui m'inspirent tous les jours, c'est mon enfance, en fait. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir une enfance magique entre ma grand-mère, elle avait un château sur l'Aubrac, donc j'ai passé mes étés dans un château énorme, d'ailleurs on peut encore le visiter, hein. Et donc j'ai passé ma vie entre l'Aubrac, la Normandie, la boutique de décoration de mes parents, et tout ça, en fait, c'est évident que c'est ancré en moi avec toute mon enfance. D'ailleurs, je m'en rends compte aujourd'hui. Je veux dire, c'est vrai que j'ai quand même grandi dans un château et dans une maison et dans une boutique de décoration. C'était vraiment ça, ma vie. Et donc, par exemple, un château, c'est rempli d'histoire. À chaque fois qu'on tourne la tête, on a un objet. C'est magique, en fait, comme dans les films, quoi. Donc, je pense que ça m'a inspiré vraiment. Et donc, oui, il est évident que toute mon enfance, l'enfance est liée, je pense, à ce qu'on crée.
L'autre jour, j'ai mis en ligne un épisode sur le pouvoir des couleurs. Mmh. Et mon invité, Jean-Gabriel Cause, dit qu'on a trop de blanc chez nous, qu'on n'ose pas assez les couleurs. Et chez toi, je me fais l'avocat du diable, c'est particulièrement blanc, puisque même le parquet est peint en blanc. Mais c'est très lumineux. Mais toi, qu'est-ce que tu lui répondrais ? Qu'est-ce que le blanc t'apporte ?
Bah, je pense que le blanc m'apaise, en fait. Alors après, je ne parle pas du blanc clinique d'hôpital. Et d'ailleurs, en règle générale, l'hôpital, ce n'est pas très blanc, c'est plutôt un jaune. J'étais pas particulièrement blanc d'ailleurs en fait avant, quand on voit mon loft, il était pas du tout blanc. Hein. Mais c'est avec le temps, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'avais un mur de couleur, je finissais par le peindre en blanc. Et je me rendais compte que quand je le peignais en blanc après qu'il était en couleur, je respirais, je faisais « Ah, ça va mieux !» Et à partir du moment où j'ai fait ce constat que en fait ça allait mieux, je me suis dit « Ah, c'est peut-être qu'il y a un truc. » Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, par exemple ici typiquement, on est dans un appartement qui n'est pas très grand en soi, et je pense qu'on gagne de l'espace avec du blanc, c'est évident. J'ai là mon salon, on est en train de parler en ce moment dans mon salon, je suis en train de réfléchir, si mon sol était noir, il est évident que je perds quelques mètres carrés, je pense, hein, très sincèrement. Donc je pense aussi que c'est ça, c'est-à-dire que le blanc agrandit l'espace et élargit la perspective, je pense. Voilà.
Donc les couleurs, tu joues avec
Alors les couleurs, je joue avec, et j'adore les couleurs. Donc quand on me dit « t'aimes pas les couleurs », non, c'est pas vrai. J'adore les couleurs, et au contraire, je pense qu'en plus, je suis pas mauvaise en tant que coloriste, mais par contre, je fais des touches. Je fais des touches et je fais attention. Mais c'est juste une question de... C'est-à-dire la couleur dans son intérieur, ça n'a rien à voir avec la... Et ça ne veut pas dire que je n'aime pas la couleur dans l'intérieur. Il est évident qu'une cuisine avec une jolie couleur... Genre, par exemple, ma porte rose que j'ai faite à la campagne, je l'adore. Et c'est un rose assez fort. Donc, c'est juste que je pense que je me lasse plus vite. Voilà, c'est juste ça.
Alors, tu chines beaucoup. Comment est-ce que tu fais pour dégoter tes trésors ? Est-ce que tu as des secrets ?
Je pense que ça, c'est un peu l'art du métier. Enfin, en même temps, sinon, je changerais de métier. Si les gens pouvaient acheter comme moi, bah là, c'est fini, j'arrête mon métier. Mais donc, évidemment, je pense que je vois des trucs que les gens ne voient pas forcément. Donc ça, c'est l'art de la sélection. Je veux dire, mes parents me disaient toujours, on a une boutique de décoration, mais il est évident que ce qui était la beauté de la boutique de mes parents, c'était la sélection. C'est qu'ils avaient l'art, mais même moi, je me souviens très bien, j'adorais regarder pourquoi mon papa avait choisi tel article ou ma maman tel article. Ils se disputaient d'ailleurs souvent parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur une certaine sélection. Même moi, quand j'arrivais, je venais mon grain de sel, moi aussi, je mettais des sélections qui n'étaient pas les leurs. Donc c'est évident que le travail, c'est la sélection. C'est ce qui se passe dans nos têtes, en fait. Par exemple, quand je fais des vide-greniers avec mes copains, ils me disent, bah moi, j'aurais pas vu ce que t'as acheté. Puis moi, en plus, comme j'adore ça, je passe ma vie à le faire et je pense que ça affine un peu le regard et donc je peux trouver, en fait, n'importe où.
Ouais, n'importe où, parce que ta maison de campagne est dans une région...
Avec plein de brocantes.
Voilà, où il y a beaucoup de brocantes. Il y a quand même des régions qui sont mieux servies
en
que
fait,
d'autres.
En fait, non. Je crois que toutes les régions de France, très honnêtement, quand on suffit de regarder, sur Bric à Broc ou je ne sais pas quoi, on peut se rendre compte qu'il y a un vide-grenier près de chez soi absolument partout. Moi, dès que je me déplace, je sais qu'il y a un vide-grenier le dimanche et j'y suis. Donc non, partout, n'importe où en France. Ils disent que c'est une des activités des Français favorites. Donc non, il y a des vide-greniers absolument partout et moi j'adore ça. Donc là, j'espère que ça va revenir vite parce que...
Est-ce que tu as des brocantes préférées ou tes adresses, elles sont secrètes ?
Alors très honnêtement, c'est vrai, j'ai pas d'adresse fétiche. J'adore les brocantes en général. Donc en Normandie, je fais plein de brocantes. À Paris, j'adore aller aux puces. Je trouve ça magique. Il y a les puces de Vanves. Non, j'ai pas d'adresse plus que quelqu'un d'autre, je pense. En revanche, non, je suis une fanatique des vide-greniers, ça c'est officiel. Mais parce que justement, en fait, les vide-greniers, c'est un peu c'est des petits trésors qu'on trouve.
Mais les vide-greniers, justement, j'ai l'impression qu'on trouve plus ces fameux petits trésors, une petite carafe, des petits vases. Mais où trouver une belle table de ferme, des chaises un peu...
Ça, il faut vraiment...
Ça se trouve.
En général, il faut aller chez un brocanteur qui a une jolie sélection de chaises. Moi, je fais beaucoup eBay aussi. Hein. Je suis beaucoup sur le Bon Coin.
Donc chez des pros, en fait.
Le Bon Coin à eBay, c'est pas forcément des pros. Hein. Mais moi, je passe ma vie. Par exemple, ici, j'ai beaucoup, beaucoup trouvé d'objets sur Le Bon Coin. Je me souviens d'un monsieur où j'étais allé dans sa maison et je lui ai acheté, je crois, une table. Et il s'avérait qu'en fait, sa grange était mais remplie de trésors. Il m'a dit, mais si vous voulez, je vous montre quelques trucs. J'ai dit, bah oui, je veux bien. Et en fait, je suis partie avec la voiture entière et j'étais trop contente. Il avait une sélection super et il m'a expliqué que c'était son passe-temps. Qu'en fait, il travaillait. Mais qu'il aimait bien chiner et trouver des trucs. Et donc, il avait son petit passe-temps du week-end qui était de poster ses trucs sur Le Bon Coin. Et ça, il y en a beaucoup, hein, en fait. Hein.
Qu'est-ce que t'aimes, toi, dans ces vieux objets ?
Je trouve que le bois, en fait, quand il est bien traité, qu'il a une jolie patine, il amène beaucoup de chaleur à l'intérieur, surtout quand il est blanc. Tout le travail, c'est plutôt la patine du bois. Et là, on voit là, sur ma table, par exemple, ma table qui est pleine de cabossée avec plein de taches de peinture. Je pense que c'était un établi de peintre ou de plombier, je ne sais pas. Et moi, j'aime la patine. En fait, je pense que le meuble raconte déjà une histoire. Donc là, par exemple, la table sur laquelle on est, elle raconte clairement une histoire. Il s'est passé des trucs, je pense, sur cette table. Et ça, j'aime bien.
Alors, tu chines beaucoup, mais quand ton appartement sera vraiment bien meublé, ta maison
aussi...
Bon,
il l'est déjà, en fait.
Ben voilà, donc qu'est-ce que tu fais
Ma maison, j'en ai racheté une autre, donc c'est bon.
Ah oui, c'est vrai, tu fais ton atelier.
Même ma maison à la campagne, en fait, j'ai encore un étage. Donc non, je ne suis pas prête de m'arrêter. Donc, et d'ailleurs, si je m'arrête, c'est qu'il y a un souci. Et mon appartement à Paris, je suis déjà en train d'inventer d'autres trucs, donc ça va.
T'as un imaginaire qui est assez fort, t'es quand même très créative. D'où ça te vient ? Est-ce que tu crois que tu es née comme ça ? On est créatif ? Ou est-ce que ça se travaille ? On peut apprendre ?
Très honnêtement, vu la créativité de mes parents, je pense que j'ai dû naître comme ça. Et maman me disait, ça me racontait toujours cette histoire, elle me disait quand j'étais petite et qu'elle choisissait des vêtements, il paraît que je lui disais « Ah non, non, ça va pas du tout les couleurs, ça, non, non, non. » Et ça l'amusait beaucoup, elle s'était dit « Oula !» Et donc, moi, par exemple, depuis que j'ai 12 ans, je sais que je vais faire ce métier. Donc, et j'ai été toujours créative, mais clairement, je suis dans une famille de créatifs. Hein, et donc, après, je pense que ça se travaille. Je me souviens qu'à l'école, je m'étais fait cette réflexion, justement, et je m'étais dit « Bon, moi, c'est sûr, j'ai une base. » Elle m'a été donnée par mes parents, par mon éducation, par ce que j'ai vu. Et je pense que mes parents m'ont éduqué sur mon goût, vraiment, je le pense. Ils me disaient toujours qu'ils ne voulaient pas m'acheter des jouets moches en plastique, qu'ils préféraient me donner des objets en bois. Alors, ils me disaient qu'ils n'y arrivaient pas, hein, que bien sûr, je voulais les trucs qu'on avait vus à la télé. Mais quand même, en fait, malgré tout, je l'ai vu, je l'ai ressenti, donc ça m'a éduqué. Donc, j'ai eu une base en arrivant à l'école, j'avais un goût, c'est sûr. Mais quand je voyais mes élèves à côté, et je voyais bien qu'eux, ils étaient, par exemple, je ne sais pas, d'une famille de médecins qui n'étaient pas du tout créatifs, et tout d'un coup, eux avaient décidé de faire de la création. Et je me disais, bon, et il me disait d'ailleurs, moi je me souviens de graphistes, même de stagiaires que j'ai eu, qui m'a dit, moi je suis une famille de médecins, ils ne comprennent pas mon métier. Et d'ailleurs, ça c'est encore un autre sujet, on en parlera une autre fois. Mais le métier de créatif n'est pas toujours bien. Enfin, moi j'ai un peu lutté. Aujourd'hui, alors, maintenant que je suis un peu reconnue, les gens sont plus aimables, mais ça n'a pas toujours été évident. Et donc je pense qu'il faut se battre pour la création. Et c'est un métier dont il faut vraiment se battre. C'est un métier comme les autres en fait. Et il n'y a pas de raison qu'il soit. Enfin, bon, ça c'est un autre sujet, mais c'est un sujet qui me touche. Et je me suis rendu compte que même c'est pas parce qu'on est dans une famille de médecins, si on se bat et qu'on apprend, bah bien sûr on y arrive.
Mais il y en a beaucoup qui disent je sais pas faire.
Bah oui, mais c'est pour ça que ça s'apprend. Je pense que bien sûr qu'on sait pas faire, mais si on a envie de le faire et si ça nous procure du bonheur et si on se bat et si on apprend, heureusement, et c'est là où je dis que c'est un métier. C'est qu'évidemment ça s'apprend. Et quand on me dit ah oui mais toi en fait c'est parce que tes parents ils faisaient de la décoration, bon, je l'ai déjà entendu ça. Donc en fait c'était inné, t'avais du goût comme ça. Ben, je veux dire, oui, c'est vrai, il y a une part de vérité. Mais en même temps, j'ai fait une école de direction artistique, j'ai appris à manier Photoshop, j'ai appris à manier Illustrator. Aujourd'hui, je suis capable de faire de la photo. La photographie, c'est un métier. On m'a appris à dessiner, on m'a appris la perspective. Donc oui, j'ai appris un métier. Et donc évidemment, alors pour d'autres, c'est peut-être plus difficile. Mais d'ailleurs, en fait, moi, j'avais des copains à l'école qui étaient... clairement, ils avaient pas eu aidé et ils s'en sortaient très, très bien. Donc oui, c'est un métier et on peut l'apprendre. Donc il faut faire ça.
Et en quoi tu dis il faut se battre ?
Bah, il faut se battre parce qu'en fait, c'est un métier difficile, qui n'est pas très reconnu, en fait, quand même, malgré tout. On n'est pas médecin, ça c'est clair, mais, ou même avocat, n'importe quoi, parce que c'est des beaux métiers, mais ce n'est pas très reconnu, la création. Et, alors qu'aujourd'hui, on est dans un monde de l'image. Donc aujourd'hui, par contre, on commence un petit peu à changer d'avis. Mais moi, j'ai le sentiment très souvent que les gens me disent « Oui, mais enfin, ton truc, ça va, c'est pas très difficile. » Non. Là où c'est génial, c'est que je suis heureuse dans mon métier. Donc, je n'ai pas l'impression de travailler puisque j'adore ça. Mais je travaille quand même, malgré tout. Et je travaille comme n'importe quel autre métier. Mais donc, oui, ouais, c'est vrai que de temps en temps, j'ai même envie de faire des conférences dans les écoles parce que j'ai envie que les créatifs parlent plus fort, quoi. Se défendre, se défendre un peu plus parce que je trouve que de temps en temps, c'est un petit peu. Enfin, ça, c'est mon point de vue.
C'est vrai qu'il y a quelque chose de très spontané chez toi. En fait, on a l'impression que tout est facile. Tu as un intérieur qui est canon. Mais on a l'impression que tu as pris deux fleurs, tu les as mis dans un vase, tu as aligné trois tableaux, ça fait un décor sympa, tes petites chaises. Est-ce que c'est juste une impression ? Est-ce que c'est vraiment facile pour toi ? Ou derrière, en fait, c'est quand même très travaillé, très pensé ?
Alors, je pourrais pas dire que c'est difficile parce que je suis tellement passionnée que évidemment, j'ai pas l'impression que c'est difficile. Je m'éclate en fait. Et si je m'éclate pas, c'est que là il y a un souci. Mais non, c'est travaillé. Je pense qu'en fait, malgré tout, je pense que c'est réfléchi, en tout cas. C'est réfléchi, et dans le fond, je pense que... Souvent, je me dis ça. Par exemple, mon Benjamin me dit tout le temps, de toute façon, Zoé, il y a plusieurs personnes dans ta tête, et de temps en temps, j'arrive plus à te suivre. Et je me le dis tout le temps, on rigole beaucoup de ça, mais c'est tellement vrai. J'ai quand même 15 personnes qui me parlent en même temps dans ma tête, en disant, t'as fait ça, t'as fait ci, t'as fait ça, donc je suis un peu énervée quand même, hein, clairement. Mais j'adore ça. Donc oui, c'est facile et pas facile en même temps, quoi. Instagram, par exemple, je réfléchis beaucoup à est-ce que ça va amuser les gens ? Est-ce qu'ils vont être contents quand ils vont voir cette photo ? Et je me dis souvent ça. Je me dis, est-ce que moi, ça me ferait plaisir ? Et donc, c'est un peu travailler dans ce sens-là. Après, non, la photo est spontanée. Mais parce que je me dis, tiens, ah là, ça a l'air assez joli. Moi, ça me touche. Donc, j'y vais. Et j'adore la photo, en fait. J'adore ça. Et j'adore capter le bon moment, la jolie lumière. C'est un peu comme un tableau, en fait. C'est un peu comme du dessin. À partir du moment où je me dis, si j'ai envie de dessiner la photo que j'ai faite, c'est que c'est bon, elle réussit.
Et on se dit aussi que toi, c'est ton métier, c'est plus facile. Tu penses à tout. À quoi ceux qui nous écoutent devraient penser quand on crée sa déco ?
Alors, je pense que d'abord, ils devraient réfléchir. Ils ne devraient pas faire penser à leur déco tout de suite. Ils doivent s'asseoir sur un fauteuil dans leur maison vide et ils doivent un peu méditer. Ils doivent réfléchir à l'espace, à savoir comment les gens circulent dans la pièce et quels sont les endroits qui procurent un peu de bonheur dans la pièce. Et en fonction de ça, ça demande un peu de temps. D'ailleurs, je dis qu'on s'assoit sur un fauteuil, mais en fait, on s'assoit plusieurs fois, plusieurs jours. Moi, c'est ce que je fais. Je m'assois et c'est comme de la méditation. Et je regarde là-haut, les fenêtres. J'ai besoin de temps, je crois, en fait. Et par exemple, là, la maison que je suis en train de refaire, même si elle est là depuis longtemps, elle est dans mon jardin depuis longtemps, je réfléchis, je dessine, puis après, je reviens en arrière, je recommence. Et j'ai besoin de ce temps pour m'acclimater à l'espace. Donc, je dirais aux gens, comme conseil, de prendre le temps. Voilà. Et une fois qu'ils ont pris le temps, il faut pas qu'ils aient de frustration, il faut qu'ils se fassent plaisir, en fait. Je pense que moi, ce que je dis toujours dans la décoration, c'est que les gens ont peur, en fait. Les gens, ils osent pas. Les gens, ils sont fermés, ils ont des frustrations, je sais pas pourquoi. Il y a plein de trucs qu'ils osent pas faire parce qu'ils se disent, oh, je sais pas, en fait, on fait pas ça, ça se fait pas. Mais c'est faux. Je veux dire, c'est ça la liberté aussi. Alors peut-être que, en fait, dans le fond, je suis quelqu'un de très libre. Mais moi, j'ai pas peur d'aller ramasser une vieille porte, de la clouter. Alors ça marchera peut-être pas. Mais j'ose, en fait. Je pense qu'en décoration, il faut oser. Il faut pas avoir peur. C'est ça qui est drôle, en fait. Sinon, la vie serait un peu trop triste.
Est-ce qu'il y a des indispensables pour toi, pour une jolie déco, pour une déco réussie?
Je dirais que les indispensables, alors ça c'est compliqué, non.
Ou des erreurs à ne pas faire, à l'inverse.
Et les erreurs à ne pas faire, et que c'est de mettre un meuble trop vite. Le nombre de fois où on se trompe avec un canapé, parce qu'en fait il n'en a rien à voir et qu'il ne rentre pas dans la pièce. Le nombre de fois où on se trompe avec une table, où on dépense du fric sur un truc et on se rend compte que ça ne va pas du tout. Donc je dirais que oui, les erreurs à ne pas faire, c'est pas aller trop vite, en fait. Et prendre le temps. Et de faire des petits dessins, des crobats en regardant les espaces. Voilà.
Tu parles d'argent, justement. Est-ce qu'une jolie déco, c'est pas aussi une question de budget ?
Alors ça, non. Et d'ailleurs, même pour être très honnête, je pense que c'est pour ça que mon style a du succès, en fait. Parce que les gens voient bien qu'il ne faut pas exagérer. J'ai pas de lampe. Alors, de temps en temps, ça m'arrive, effectivement, à la campagne. Là, je me suis offert une belle lampe qui coûte cher. Enfin, c'est assez rare. Et en général, j'ai des objets qui ne coûtent pas très cher, qui sont accessibles. Par exemple, ici à Paris, c'est un peu différent. À Paris, j'avais un peu plus de budget pour mes travaux. Et en plus, comme avec Paris, il y a l'histoire de plus-value, tout ça, nanana, on ne sait jamais si on va le revendre. Je mettais un peu plus plaisir dans le mobilier. J'ai des choses qui coûtent un peu plus cher. Et encore, ça se discute. Si dans les robinets, j'ai des robinets qui coûtent un peu plus cher. À la campagne, j'avais plus de budget pour mes travaux. Donc, j'ai vraiment fait que de la brocante et du bon coin. Et les gens me disent, t'as le même style. Je dis oui, mais en fait, à Paris, c'est pas vrai. C'est un peu plus... cher, on va dire, mais pas à la campagne. Donc oui, évidemment, à la campagne, moi, d'ailleurs, tout le monde me dit, t'as pas peur de te faire cambrioler, tout ça. Je dis, mais tu sais, en fait, j'ai pas grand-chose.
À la campagne.
Oui, à la campagne. Oui. J'ai pas grand-chose, en fait, c'est de la brocante. Alors peut-être que ça les intéressera de voler ma table broc. Bon, j'en retrouverai une autre, c'est pas grave.
Alors, sans transition, t'as déjà écrit différents livres ou illustré. Aujourd'hui, tu sors deux carnets de voyage. Ça s'appelle les carnets de voyage.
Carnet du voyageur parisien.
Carnet du voyageur parisien. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces livres ? D'où est venue l'idée ? Ouais.
Bah, en fait, j'ai déjà fait pas mal de carnets de coloriage qui ont été un grand succès sur Paris, New York et Tokyo. Donc, pendant les premières années, d'ailleurs, j'étais avec les enfants, j'étais enceinte. Et donc, j'ai dessiné pendant 3 ans, j'ai fait que dessiner. Et j'ai adoré, en fait, de dessiner sans réfléchir. Je trouvais que c'était une super thérapie. Et puis, en fait, j'ai eu cette idée il y a maintenant un an, je crois, même un peu plus, un an et demi. J'étais à New York, où c'était un peu notre premier grand voyage avec les enfants. Et j'avais envie de faire un carnet de voyage de souvenirs. Donc, j'avais absolument tout acheté. Le carnet, les crayons. Et j'avais imprimé toutes mes adresses avec mon imprimante. Donc, j'avais travaillé. Et je m'étais dit, comme ça, quand on sera à New York, on remplira mon carnet de voyage comme un vrai carnet de voyage. Et en fait, on allait dans une de mes adresses avec les enfants et ma fille me dit, écoute maman, elle est sympa ton adresse, mais en fait, je m'ennuie. Est-ce que je peux dessiner ? Et là, je me suis rendu compte que j'avais mon carnet de voyage dans mon sac. Je dis, bon, bah, en attendant, dessine, je te donne des crayons, dessine sur mon carnet de voyage. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais au café et que j'avais aucune envie de dessiner et qu'en fait, j'étais avec les enfants, donc c'était compliqué. Et je me suis dit, en fait, ça y est, c'est bien parti pour que je ne fasse jamais ce carnet de voyage. Je l'avais commencé, mais pas du tout terminé. Et là, c'est là que m'est venue l'idée où je me suis dit, en fait, si moi, en tant que créatrice et en tant que j'aime dessiner, je suis même pas capable de faire un carnet de voyage, qui est capable d'en faire un ? Alors, il y en a un, plein. Mais c'est un boulot monstre, en fait, de faire un carnet de voyage. Et là, je me suis dit, en fait, il faut que je fasse un outil qui aide les gens à faire eux-mêmes leur carnet de voyage et qui aussi peut servir à toute la famille. C'est-à-dire que si on est dans un café avec sa petite fille, son petit garçon, on sort les crayons et ça les occupe pendant que nous, on est tranquille à boire son petit café à la terrasse. Mais en même temps, il y a les adresses, parce qu'aussi de chercher les adresses, en fait, c'est compliqué. Donc, je me suis dit, il faut que cet outil-là serve à tout le monde. Ils ne sont pas obligés de le colorier, mais au moins, ils ont les adresses. Et si on est avec ses enfants, on les fait colorier. Et si nous-mêmes, on adore colorier, bah, on a l'impression qu'on fait quand même un carnet de voyage. Donc, en fait, voilà, c'est ça, c'est venu de là. Et j'en ai parlé à mon éditrice et voilà, et elle a adoré le projet, elle a trouvé ça trop marrant. Et on a fait Paris et Londres et j'espère qu'on en fera plein d'autres.
Pourquoi Londres ?
Pourquoi Londres ? Parce qu'après Paris, c'était Londres. Quoi. Après, ça aurait pu être New York. Moi, j'avoue que j'adore New York. Et puis Londres, je l'ai fait avec ma cousine qui est londonienne et qui m'a beaucoup aidée sur les adresses. Donc, c'était plus facile en plus.
Et sur les adresses à Paris, comment tu as travaillé ? Est-ce que tu es le genre qui note tout dans un carnet, toutes les bonnes petites adresses ou non ?
Je suis du genre qui commence à noter et qui ne finit jamais son cahier. Donc, j'avais commencé à noter. Et puis très vite, voilà. Et donc, les adresses, ça a été, bah, j'ai essayé de faire vraiment toutes les adresses de cœur. En fait, il y en a plein, j'en ai oublié. À chaque fois que j'envoie une nouvelle, je me dis, mais elle était top. Donc, c'est compliqué les adresses. Donc, j'ai essayé de rassembler un peu par des promenades. Donc, j'ai fait par promenade et par quartier de Paris en me disant, voilà, si on est dans ce quartier, moi, là, j'irai là, là, là. Si on est dans un autre quartier, j'irai là, là, là. Et c'est vraiment un carnet que j'ai fait même pour une Parisienne. Hein, parce que même moi, voilà, là-dedans, je pense qu'il y a encore quelques adresses que j'ai mis parce que j'ai envie d'y aller.
Donc, ce sont quoi, des cafés, des boutiques ?
Il y a tout. Il y a vraiment des cafés, des restaurants, des boutiques de déco. Voilà, il y a un peu de tout.
Alors, t'es 3 boutiques déco préférées, je suis obligée de te la poser celle-ci.
Ah mais 3 c'est boutiques impossible. Déco, bah, très honnêtement, je passe ma vie chez Merci quand même, vraiment, parce que je trouve que bah, y a des super sélections, il y a toujours des super scénographies, il y a beaucoup de goût. Je dirais pas que c'est une brocante, hein. Bah, pour le coup, c'est plutôt là où je trouve justement, par exemple, on me demande toujours où est-ce que j'ai acheté mes lampes qui sont au-dessus de ma table en pot de confiture, enfin c'est pas dans, c'est pot de conserve, parce que c'est d'ailleurs. Bon, ça, on me demande beaucoup, bah, je les ai achetés chez Merci, par exemple. Donc voilà, donc déjà que chez Merci, il y a quand même plein de petites touches contemporaines, peut-être plus, mais aussi un peu vintage, que j'aime bien. Après, dans le livre, bah, il y a la boutique Ailleurs, que j'aime beaucoup, avec voilà, le personnage est quand même trop sympa, donc ça, j'aime bien. Après, j'adore aller dans les brocantes, aux puces, voilà. Et après, la boutique de déco, il y a la petite boutique, là, qui sont trop mignonnes, chez Mezzanine, c'est une petite boutique, toute petite boutique de déco à côté du Bon Marché. Et d'ailleurs, on va peut-être aller faire un lancement là-bas pour mon livre, et elles sont trop mignonnes. Et elles ont toujours une jolie petite sélection déco.
Et pour un café, maintenant qu'on est déconfiné, une terrasse un peu sympa à Paris que t'aimes bien ?
Alors, une terrasse... Là, celle qui me vient tout de suite, mais alors parce que je sais pas, parce que peut-être des souvenirs de l'enfance, c'est le café Louis-Philippe en face de l'île Saint-Louis. Parce qu'en fait, la légende dit que mon papa et ma maman ont leur premier rendez-vous là-bas. Et donc depuis, voilà, avec mes frères et sœurs, on adore ce café parce qu'on trouve qu'il est très parisien. Et il a ses petites nappes Vichy, ils sont toujours très gentils. Et donc moi, j'ai l'impression de... Pour moi, c'est Paris, quoi. Voilà, donc je dirais là, si je pouvais aller déjeuner au café Louis-Philippe, ça serait bien.
Et un endroit sympa pour les enfants ?
Un endroit sympa pour les enfants, ça c'est une bonne question et c'est une question compliquée. Donc là, il faut que je réfléchisse. Bah, hier, on parlait de ça, des pique-niques au parc du Catherine Labouré, qui est derrière le Bon Marché, qui est en fait un parc avec des bonnes sœurs. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, il est très feng shui ce parc. Et moi, quand j'étais petite, j'allais faire des cours de potager. Et en fait, j'ai vu qu'il existait encore des cours. Et d'ailleurs, j'étais censée inscrire ma fille, bien sûr, je ne l'ai pas fait. Et je trouve, voilà, je trouve que c'est un parc que j'aime beaucoup. Donc là, je rêverais d'emmener ma fille à un cours de potager dans le parc Catherine Labouré.
C'est marrant parce que tu es très citadine et en même temps, tu aimes beaucoup la campagne. Est-ce que ton cœur balance quand même d'un côté ou
l'autre ? Mon cœur balance, c'est juste évident. C'est-à-dire que moi, je suis mi-ville, mi-campagne. C'est-à-dire que je suis parisienne, je suis née à Paris, je ne connais que Paris. Mes parents et grands-parents étaient parisiens. Une de mes grand-mères était russe, mais en fait, elle était quand même complètement parisienne. Et donc, j'ai eu la chance d'être gâtée. J'étais à Paris et puis à la campagne pendant les vacances. Donc, mes parents ont une maison à côté de la mienne en Normandie. Donc, j'ai toujours été en Normandie. Et puis, l'Aubrac, et puis le Midi, et puis le sud de la France. Donc, mais je serais capable d'aller vivre à la campagne, mais je suis quand même assez attachée à Paris. Donc, d'où ce choix d'avoir une maison à une heure de Paris. Comme ça, c'est réglé, le problème est réglé.
Alors, tu as une autre casquette aussi qui est un peu d'être influenceuse, entre guillemets. Tu es quand même très suivie sur les réseaux. Tu as quand même une grosse communauté. Comment tu l'expliques? D'où elle vient? Qui sont ces... Comment elle s'est créée, cette communauté?
Très honnêtement, Instagram, moi, je sais pas comment dire. J'ai mis du temps à comprendre. Je me sens pas du tout influenceuse. Hein. D'ailleurs, bon, souvent qui disent on n'aime pas le terme et tout ça, mais c'est pas faux. Je suis pas une fan.
Ah ouais, c'est horrible.
De ce terme. Et en plus, comme j'ai un métier, c'est un peu nouveau pour moi Instagram. J'ai de la chance parce que je gagne ma vie à côté. J'ai mes bouquins. Je suis décoratrice. Donc Instagram, c'est très très nouveau en fait. Mais par contre, c'est très amusant. Parce que ce que je trouve très amusant, c'est de parler aux gens, en fait. On se rend pas compte, mais en fait, on communique hein, sur Instagram. Et donc, moi, j'ai quand même, là, par exemple, mon histoire de soupe de fleurs. Alors ça, j'ai pas compris ce qui s'est passé. là, j'étais un petit peu dépassée par le truc. J'ai dit, oula, pendant
tu
le confinement...
Tu peux expliquer pour ceux qui ne
Même on m'en parle encore aujourd'hui, bah rien. Un jour, j'ai mis... comme, en fait, mon mari dit, de toute façon, t'es une tarée des soupes de fleurs. C'est vrai, j'ai toujours fait ça depuis que je suis toute petite. Je m'amusais avec mes enfants, ou même moi petite, je m'amusais à faire des soupes de fleurs avec mes cousines. Donc, pour moi, voilà, j'ai toujours fait ça. Et là, j'ai posté une photo de soupe de fleurs, mais vraiment, très honnêtement, sans aucune arrière-pensée. Et là, je me suis retrouvée. Tout le monde s'est mis à faire des soupes de fleurs et à m'en envoyer, mais j'en ai reçu 1000. C'était incroyable. Mais j'avoue qu'en même temps, c'était pendant le confinement que j'étais quand même assez nerveuse, assez stressée de ce confinement. Et que c'était génial de recevoir toutes ces soupes de fleurs. Je me suis dit, bon, en même temps, il y a pire. Donc voilà, donc là, typiquement, on peut dire que là, j'ai influencé pas mal de personnes sur la soupe de fleurs. Et voilà, et je pense qu'aujourd'hui, ce qui m'amuse, en tout cas dans Instagram, c'est effectivement, quelqu'un m'a dit un jour, récemment, il m'a dit, en fait, t'es pas influenceuse, t'es inspirante. Et ça, j'ai trouvé que c'était plus joli.
Oui, c'est beaucoup plus joli. Toi, mais justement, en parlant d'inspiration, est-ce que ça t'inspire? Tu y vas pourquoi?
Instagram?
Ouais.
Ah, ça m'inspire, c'est sûr. Mais je fais attention quand même. Je sais pas si ça m'inspire. Si, ça m'inspire. J'aime voir les styles de vie de gens au fin fond des États-Unis, au fin fond de l'Amérique, enfin, l'Amérique du Sud. C'est ça que je trouve génial sur Instagram. En fait, ce que je trouve génial sur Instagram, c'est que le monde se rapproche. J'ai des messages, moi, d'Américains. J'ai des messages du Brésil. J'ai des gens qui m'envoient leur coloriage au fin fond du Japon. Par exemple, là, j'avais sorti un coloriage qui avait cartonné en Corée. Et j'avais reçu, je sais pas, 3000 hashtags de mes en coréen, donc il fallait le deviner, de coloriage. Donc c'est magique ça quand même. Il y a 10 ans, je pense que ça n'existait pas quoi. Donc pour moi, ça Instagram, c'est vraiment le bonheur. Se rapprocher du monde. Ouais.
Et tu fais beaucoup de photos, tu montes beaucoup de photos de chez toi. Tu es habitué à ça. Comment c'est venu en fait la première fois?
Je pense que j'ai dû poster une photo de chez moi un jour. Enfin, je veux dire, à un moment, si on fait de la déco, forcément, on monte son chez-soi. Sinon, ça serait pas marrant. C'est un peu comme si on fait des dessins, on monte son dessin. Si on est illustrateur, on monte son dessin. Bon, bah, décoratrice, pareil. Je pense que ça a été comme ça un peu au début et j'ai vu que ça avait du succès. Et là, je me suis dit, tiens, c'est marrant, on dirait que les gens aiment bien. Et voilà, donc après, je me suis dit, bon, bah, si les gens aiment bien, je vais continuer.
Est-ce que toi, donc tu es très inspirante pour des tas de personnes, est-ce que toi, tu aimes, t'admires l'univers de quelqu'un? Un courant, une personnalité,
est-ce que j'admire,
un designer, une décoratrice.
J'aime plein, en fait. Enfin, je peux en dire 25, hein, potentiellement.
Alors, vas-y, on a le temps.
Qu'est-ce que j'aime? Alors, par exemple, je suis une fan de Paul Smith, parce que Paul Smith, dans le genre, il gère les couleurs quand même super bien. Et ce que j'aime chez Paul Smith, c'est que c'est clairement un dyslexique. Et ça, je pense qu'entre dyslexiques, on se repère. Et donc Paul Smith, il est tellement dyslexique, mais c'est un vrai bonheur. Donc vous voyez Paul, et puis il est drôle, il y a beaucoup d'humour. Donc ça, je dirais que moi, je suis une fanatique de Paul Smith. Donc j'attends ses posts toujours, il fait toujours des trucs tellement drôles. J'adore Martine Parr et son humour, ses photos. Je trouve que c'est tellement drôle. Paul Cox, j'adore les illustrations de Paul Cox, David Hockney. Voilà toutes ces couleurs en fait. Je crois que j'aime beaucoup toutes les couleurs. Et puis après, en décoration, bah bizarrement, je sais pas de. Ah si, j'adore. Mais alors je n'arriverai jamais à le prononcer. Il est belge, je crois. Axel
Vervoort.
Voilà. Okay, voilà. Donc, toi-même, tu n'y arrives pas. Axel Vervoort, ou je ne sais pas quoi. Ça, je suis une grande fan. Je trouve que c'est tellement beau.
Alors, avant de terminer, on va passer aux questions du public. J'ai toujours pas trouvé le
terme.
Le terme, ouais. J'ai demandé hier sur Instagram à ceux qui suivent Décodeur s'ils avaient des questions pour toi. Mm-hmm. Donc j'ai pas mal de questions. Je te propose de me donner un numéro, je vais compter et tu vas me dire pour le tirage au sort.
Je peux te dire jusqu'à combien, c'est quoi ?
Tu peux dire jusqu'à 60.
Ah oui, d'accord. Compliqué, je vais dire 24.
Alors, c'est une question de Tessa Vacher-Desvernay. Comment faire pour que le reste de la famille conserve l'équilibre de son esthétique au jour le jour ?
Si j'ai bien compris, ça veut dire comment faire pour qu'avec des enfants et avec la vie, en fait, en général, on arrive à conserver un joli équilibre de décoration, si c'est bien ce que j'ai compris.
Oui, je pense que c'est ça.
Par exemple, un canapé blanc avec des enfants. Typiquement. Ben, on y arrive, alors je sais pas comment, peut-être que c'est une certaine méthodologie. Moi j'avoue que je pense qu'on trouve, alors c'est là où je rejoindrai Marie Kondo, c'est-à-dire que je pense qu'en fait, moi évidemment que mes enfants ont des jouets, par exemple des jouets moches en plastique qui ne vont pas du tout avec mon intérieur, mais en fait j'ai trouvé plein de systèmes de rangement qui font qu'en fait, quand ils jouent, ben, voilà, ils jouent, il n'y a pas de souci, ils font ce qu'ils veulent, mais par contre quand j'ai décidé de ranger la pièce, bah en fait, j'ai une façon de structurer la pièce qui fait que, voilà, par exemple, typiquement dans la chambre des enfants, j'ai fait des aménagements sur les combles où je range tous les jouets quand je les range. J'ai fait des systèmes de paniers où je mets tous les jouets à l'intérieur. À la campagne, j'ai fait, là, par exemple, pendant le confinement, j'ai tout rangé, j'ai mis dans des paniers. Voilà, je pense que c'est ça en fait. Et, par exemple, sur les étagères, je garde que les jouets que je trouve jolis. Et tout ce que je trouve un peu moche, bah, je trouve des espèces de systèmes de rangement. Alors, par exemple, le rêve de ma fille, c'est quand même d'avoir un lit Michael Jackson. Bon, bah typiquement, je lui ai dit, écoute, c'est pas prévu.
C'est quoi un lit Michael Jackson ?
Je sais pas, elle avait dû voir ça quelque part, et mon fils a dit que lui aussi, c'était son rêve. Et là, je lui ai dit qu'elle pouvait oublier. Que de toute façon, même si on allait bouger, elle n'aurait jamais son lit Michael Jackson. Et là, elle a rigolé, elle a dit vraiment, bon, ça va, elle a pris ça avec humour. Et je lui ai dit, ça, tu peux oublier, même à 14 ans, tu n'auras jamais ton lit Michael Jackson. Tu l'auras quand tu déménageras. Et je lui ai dit, quand tu déménageras, tu auras ton lit Michael Jackson, mais à mon avis, tu auras changé d'avis. Et là, elle me dit, tu crois ? Je lui ai dit, oui. Mais peut-être pas. Peut-être. Et là, elle me dit, en tout cas, si j'ai une fille, eh ben, elle aura un lit Michael Jackson. Et là, mon mari a répondu, je prends note. Et quand tu auras une fille, tu nous diras. Elle a rigolé. On a dit, tu nous diras si tu as accepté le lit Michael Jackson. Mais on s'en souviendra. Voilà. Mais après, en règle générale, voilà, ça se passe plutôt bien. De toute façon, ils ont compris qu'en plus, c'était notre métier. Et que voilà, puis... Ils ont quand même leurs jouets, hein, je veux dire, ils ont leur Lego Star Wars, je ne leur empêche absolument pas, et au contraire, ils ont une imagination débordante, et je ne montre pas ça sur Instagram, mais je pourrais, parce qu'en fait, ça ne me dérange pas du tout, mais évidemment que ça peut devenir un chaos, c'est juste qu'il y a des moments où je range, et des moments où je les laisse, c'est tout.
Tu me donnes un autre numéro ?
Bah, je vais dire 12.
Une question de Lee Didi. Coucou, chez qui Zoé fait-elle faire ses verrières ?
En fait, il faut aller chez un métallier. N'importe où. Hein.
Tu les achètes Chérurier. Pas chez...
Non, je les fais sur mesure, je les dessine. Donc, il faut aller chez un métallier, dessiner sa verrière et demander un devis. Mais je n'ai pas de fabricant particulier de métallier.
Voilà. Et donc, quelqu'un, toi, tu dessines vraiment
dessine.
La forme.
Voilà.
Et il s'exécute.
Exactement.
Super. Alors, on va terminer avec les questions à Wattmill. Zoé de Lascazes, c'est ton vrai nom ?
Oui, alors ça, c'est aussi une grande question. Mon vrai nom, c'est Zoé Ménard de Lascazes. Sur mon passeport, c'est Zoé Ménard de Lascazes. Ménard, c'est le nom de mon papa, breton, et de Lascazes, c'est le nom de ma maman. Et en fait, quand j'ai lancé ma marque, ma maman qui s'appelle Geneviève de Lascazes, quand j'ai lancé ma marque, mon papa m'a dit, écoute, tu sais, Zoé de Lascazes, ça marche plutôt pas mal. Et il m'a dit, en plus, je sais pas pourquoi, cette loi qui dit que ça doit être le papa qui donne le prénom, je trouve ça un peu idiot, mon père n'était pas du tout macho. Et donc, il m'a dit, moi, je trouve que Zoé de Lascazes, c'est joli, à ta place, je m'appellerai comme ça. Et voilà, donc c'est mon vrai nom.
D'accord. Alors, tu vas voir le jeu de mots tout trouvé. En France, on met beaucoup les gens dans des cases. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Est-ce que tu le contestes ? Est-ce que tu...
Je ne sais pas si en France particulièrement, on met les gens dans des cases. Peut-être, mais bon, je sais pas. Non, là, c'est une question. De temps en temps, oui, il y a des gens qui mettent dans des cases, clairement, et d'autres pas. Mais moi, je ne mets pas trop dans les cases, en tout cas. En fait, moi, voilà, et là, je continue dans mon truc de dyslexique. Moi étant en temps dyslexique, je rentrais pas dans les cases déjà, donc et ça j'en ai souffert. Donc résultat, oui, peut-être en fait qu'on les met dans les cases et il faut se battre contre.
Est-ce que tu essaies de cocher toutes les cases dans la vie ?
Non, je crois pas. Enfin comme ça là, non. Je suis plutôt une instinctive moi. Donc comme on me dit, je suis bélier, donc moi je fonce sans réfléchir. Et je suis vraiment comme ça, donc Benjamin, tout le monde se fiche de moi en disant de toute façon Zoé elle fonce et elle réfléchit après. Donc voilà, je dirais que oui, non. Je rentre pas dans les cases, résultat.
Tu rentres pas dans les cases. tu es casé depuis combien de temps, justement?
Ah, je suis casé depuis super longtemps. En fait, on s'est rencontrés, j'avais 19 ans. Enfin, lui, en avait 20, enfin 19, donc ça fait 20 ans, 21. Et on travaille ensemble depuis 12-10 ans. Alors les gens me disent, mais comment tu fais pour travailler avec ton mec?
Oui, je t'ai pas posé cette question-là, que je la pose quand ouais. on...
Bah en fait, non, mais quand on travaille comme ça et qu'on a, c'est un pur bonheur, franchement, je pense que c'était plus difficile au début, parce qu'on a mis, je pense qu'on a mis du temps à... On s'est dit, non, mais ça va pas le faire. Je pense qu'on s'est beaucoup plus engueulé au début que maintenant. Je crois que maintenant, ça y est, on est rodé.
Lui, il s'occupe de...
Bah lui, par exemple, quand tu es chantier, il est chef de chantier. Donc c'est lui. Lui, il a fait un peu mon école par procuration, parce qu'on s'est rencontrés très jeune. Lui, il travaille chez Publicis, donc il a fait du graphisme, il a fait une école américaine. Et donc en fait, c'est lui qui me faisait le boulot à l'école. Il faisait pas mal le boulot de mes copines aussi. Il adorait ça, Photoshop et tout ça. Il était vraiment graphiste en fait. Et donc on va dire, il dit toujours que c'est le technicien. C'est pas faux. C'est-à-dire que bon, voilà, moi je fais des trucs et j'ai des idées, mais en fait, s'il n'était pas là, je pourrais peut-être pas les faire.
C'est la logistique, ouais. L'administratif.
Ouais, exactement. Mais résultats, enfin bon, on est bien complémentaires. C'est-à-dire que je me réveille en pleine nuit en disant ça y est, j'ai une idée. Lui va lever les yeux au ciel en disant qu'est-ce qu'elle m'a encore inventé. Mais il va être capable de la faire, donc c'est cool.
Est-ce qu'il y a des moments où tu as l'impression d'avoir une case en moins?
Ah oui, plein de fois.
Dans quel cas, par exemple?
Bah, par exemple, tout le monde dit que, je sais pas, mais il y a un film que j'ai adoré, j'adore Wes Anderson, et il y a un film qu'il adorait qui s'appelait Avec le renard, mais je sais plus comment ça s'appelait, j'ai un trou, bref, c'était un dessin animé, et dans ça, il y avait une taupe qui est tendance à des bugs, on appelle ça, elle a des bugs, donc d'un coup, elle a les yeux qui commencent à... J'adore cette scène parce que j'ai l'impression que c'est moi, et mes enfants me disent toujours, oh, ça y est maman, t'as un bug là, tu bugs là. Donc oui, j'ai souvent des cases en moi, je suis quand même très dyslexique, donc il y a plein de choses que j'arrive pas à faire, mes mouvements sont pas très synchro, enfin là, je suis un peu ambidextre, c'est un peu n'importe quoi. Donc oui, j'ai un cas en moi.
Est-ce que tu as déjà regardé la série Cold Case?
Je suis pas très série. Alors mon mari l'a sûrement vu, tout le monde l'a sûrement vu autour de moi, et moi j'ai l'impression de me faire happer par un truc et je pourrais jamais plus m'en sortir. Donc je pense que j'ai trop peur de commencer une série, voilà. Donc non, je suis pas très série. Donc j'en ai entendu parler, mais je sais même pas ce que c'est.
Est-ce que tu es le genre qui aimerait dormir dans une case, comme dans Les Bronzés, ou plutôt dans une chambre cosy?
Ah bah alors, je crois que typiquement, c'est les deux pour moi. Je suis capable d'aller mettre un lit en plein milieu de la nature, sur l'Aubrac. C'est quand même mon rêve absolu, ça. Et avoir une belle chambre. Donc j'aime les deux.
Si tu devais retourner à la case départ, qu'est-ce que tu changerais de ta vie?
L'école. Je trouve que c'est pas fait, en tout cas pour les rêveurs, voilà, comme moi. Je ferais plus de pratiques à l'école. Par exemple, dans les pays du Nord, ils font des trucs super, ils apprennent à faire des trucs idiots, ils ont des cours de cuisine. Bon, ça paraît idiot comme ça, mais dans la vie, ça aide quand même. Ils ont des cours de bricolage, par exemple. Et je pense très sincèrement qu'en fait, on est dans une société où... Enfin, je veux dire, moi, les maths, ça m'a pas beaucoup aidé dans la vie. Alors après, effectivement, je suis pas devenu mathématicien, ou je suis pas devenu... Mais il y a plein de cours comme ça qui m'ont pas aidé, alors que je trouve, par exemple, quand on dit maintenant qu'il faut faire des cours d'empathie, c'est évident. Des cours, tout ce qui est Montessori et tout ça, c'est plus adapté, je trouve, à des gens comme moi, par exemple. Aujourd'hui, c'est très dur, moi, parce que j'ai tellement pas aimé l'école que de voir mes enfants à l'école, j'avoue, c'est un peu dur, donc j'en vois beaucoup mon mari. Parce que moi, je supporte pas, en fait. J'essaye de pas le montrer à mes enfants pour qu'ils aient une scolarité qui se passe bien, mieux que la mienne. Mais j'avoue que j'enrage à l'intérieur, ouais. Je dirais que quand on est dyslexique, rêveur et qu'on est créatif, l'école, c'est pas super adapté. Alors, ça manque de créativité, je trouve. C'est un peu trop scolaire.
Bah merci beaucoup Zoé pour cette conversation.
De rien, c'est un plaisir. À bientôt.
Salut. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou en story Instagram par exemple. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Luluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast sur Instagram. Et si jamais vous écoutez sur iPhone via l'application Apple Podcast, vous pouvez aussi me laisser un commentaire, rubrique classement et avis, parce que plus j'ai de commentaires, plus Décodeur se démarque dans la jungle des podcasts, ce qui est très important pour moi, pour me faire connaître encore plus largement et faire découvrir le monde de la déco au plus grand nombre. Voilà, merci et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.